Les jeunes de 7 à 12 ans entrent un par un dans le stade de soccer de la ville de Tromsø en cet après-midi de janvier. Dehors, il fait noir parce que pendant plusieurs semaines, l'hiver, le soleil ne se lève jamais dans cette municipalité de l'extrême nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. Les joues rosies par le froid, les enfants retirent leurs manteaux et enfilent leurs protège-tibias et leurs chaussures à crampons en grignotant des biscottes tartinées de pâte de poisson ou de confiture. Moi, j'aurais mis les deux. Rapidement, ils sautent sur le terrain pour échanger passes, tirs au but, dribbles endiablés, sous le regard de leur entraîneur, l'ex-joueur de soccer professionnel Jonas Johansson. Son objectif premier? Qu'ils éprouvent de la joie, tout simplement.
Mm-hmm.
Directeur du développement pour le club professionnel de Tromsø, M. Johansson explique que cette approche est appliquée à tout le système sportif norvégien. Et cette philosophie doit être la bonne, dit-il. Regardez comme on a de bons athlètes au niveau international. On doit faire quelque chose de bien.
En effet, hein, la Norvège se situe assez haut dans les palmarès de médailles.
Hein. Oui, dans les palmarès de médailles, mais aussi dans le sport professionnel. Mm-hmm. Il y a quelques exemples ici. Difficile de le contredire, la domination norvégienne aux Jeux olympiques d'hiver est manifeste depuis des années. Et à Paris, la Norvège, avec ses 5,5 millions d'habitants, à Paris, c'était les Jeux d'été, évidemment, mm-hmm. dans les pays représentant le meilleur ratio de médaillés par habitant du monde. Cette dernière année, la Norvège a aussi vu se développer une série de sportifs qui brillent sur la scène internationale. Il y a Erling Haaland au soccer avec le Manchester United. Mais on peut aussi nommer Casper Ruud au tennis, Victor Hovland au golf ou le skieur alpin Henrik Kristoffersen. Directrice du Centre de recherche sur les jeunes et le sport, la sociologue Hase Strandu explique qu'en 1987, la Norvège est devenue l'un des rares pays au monde à adopter une loi sur le sport chez les jeunes. Essentiellement, cette loi mentionne que tous les enfants du pays ont le droit d'avoir accès à la pratique du sport et à s'y sentir en sécurité. En 2007, une série de directives à suivre a été implantée. Notre règle primordiale, ne pas faire de sport compétitif trop tôt, résume Sébastien Henriksen, qui est conseiller municipal de Tromsø et également membre du Comité olympique et paralympique de Norvège. Aucun classement ne peut être utilisé pour les athlètes avant l'âge de 11 ans. Les sportifs de moins de 13 ans, 2 ans plus tard, peuvent jouer des matchs ou faire des courses, mais on ne met pas l'accent sur le résultat. Si un tournoi est organisé, il n'y aura pas de classement général et pas de remise de médailles d'or, d'argent ou de bronze. Avant l'âge de 13 ans, il est aussi interdit de donner du temps de jeu en fonction du talent. Donc, tous les joueurs d'une équipe doivent jouer le même nombre de minutes. Là, il y a des instructeurs, surtout de hockey au Québec, qui devraient être heureux de ça parce que les parents, ils viendraient pas leur dire « Hey, mon fils, il est vraiment bon pour votre équipe, il devrait jouer bien plus
souvent. » Ah, la pression, hein? Oui.
Jusqu'à l'âge de 9 ans, les jeunes ne peuvent participer à des compétitions qu'au niveau local. À l'échelle québécoise, ça voudrait dire qu'un joueur de Montréal ne pourrait pas jouer à Drummondville, par exemple. Ce n'est qu'à partir de 13 ans qu'ils peuvent atteindre les compétitions dites nationales et internationales. On oblige les jeunes à participer à des compétitions dès que près de la maison pour une question de coût et d'accessibilité. Nous explique Gudmund Sheldahl, qui est un historien et professeur associé au département du sport et des sciences sociales de l'École norvégienne des sciences et du sport. Ils mettent vraiment beaucoup d'énergie sur l'étude. De leur...
Oui, mais quand on sait que les parents au Québec, là, la pression qu'ils subissent pour envoyer leurs enfants dans des camps, dans des...
Ah oui, oui,
puis
oui,
ça
oui.
coûte une fortune.
C'est énorme, c'est énorme. Et bon, on va en parler un petit peu dans l'article, mais moi, j'ai un fils qui a joué au hockey jusqu'à junior. Et c'est presque du hockey 12 mois par année. Il y a des ligues d'été, il y a des power skating. Il n'y a pas un temps de libre, quasiment, qui n'est pas dédié au hockey.
Et ça coûte cher.
Et ça coûte cher.
Ouais.
Justement, on travaille aussi à diminuer les frais d'inscription pour que les jeunes restent dans le sport le plus longtemps possible. Enfin, on évite la spécialisation avant l'âge de 13 ans. Les enfants ne peuvent pas jouer au hockey ou au soccer toute l'année. La science sur laquelle on s'appuie indique qu'il est bénéfique pour les enfants de s'exposer à plusieurs sports plus longtemps. Les enfants se lassent moins et sont moins susceptibles d'abandonner. Et s'ils décident de se concentrer sur un sport plus tard, ça donne aussi de meilleurs résultats. J'ai déjà lu quelque part qu'on parlait de littératie sportive.
Mmh.
Donc, apprendre à sauter, à lancer, à nager. Donc, être familier avec les mouvements de son corps dans différents sports. Ça forme des athlètes plus complets. Ces règles semblent porter leurs fruits. Ainsi, 93 % des jeunes de 5 à 11 ans, c'est presque la totalité, sont inscrits dans au moins une équipe sportive en Norvège. En comparaison, il y a 58 % des filles et 68 % des garçons de 9 à 12 ans qui pratiquent un sport de façon hebdomadaire au Canada, selon un rapport de 2020. Alors, il y a quand même une marge importante. Notre réservoir de talents est gigantesque, s'enthousiasme Tore Ovrebo, qui est directeur du sport d'élite pour la Confédération norvégienne des sports. Dans ses bureaux de l'Olympiatoppen, en banlieue d'Oslo, M. Ovrebo supervise le développement de tous les athlètes d'élite du pays avec les meilleurs médecins sportifs, entraîneurs, kinésiologues, psychologues et diététistes. On vient de partout dans le monde à l'Olympiatoppen pour connaître la recette du succès norvégien. Lors du passage de la presse, des membres de l'équipe nationale de volleyball de plage qui a remporté le bronze à Paris s'entraînaient dans une salle chauffée. Dans un immense gymnase, un sprinteur paralympique non-voyant soulevait des poids, tandis que le skieur alpin Theodor Bracken se déliait les jambes sur un vélo.
Je t'interromps là, mais ça vient chercher mon imagination. On parle d'une équipe de volleyball de plage qui remporte le bronze à Paris, une équipe de Norvège.
De Norvège.
OK. On s'entend que des plages en Norvège, il ne doit pas en avoir des tonnes, puis ça ne doit pas être ouvert en hiver, ça.
L'eau doit être froide dans ce coin-là.
Mais ça, je suis pas sûr que les gens se mettraient en petit bikini pour aller faire ça non plus.
Ça, c'est mes préjugés, là, mais quand même. Si tout est mis en place à l'Olympiatoppen pour produire les meilleurs athlètes du monde, M. Ovrebo, qui a lui-même participé à des Jeux olympiques, souligne que la philosophie qui sous-tend leur développement reste la même que pour tous les enfants et les amateurs, la joie.
Oui.
On ne fait pas d'identification de talent trop tôt, on ne les suit pas à un jeune âge. Madame Strandbou souligne que le fait de retarder l'identification des talents permet à certains athlètes au développement plus lent de briller et d'éviter de mettre de la pression sur les enfants et leurs parents. Ce n'est que vers l'âge de 15 ou 16 ans que les entraîneurs plus intenses débutent. En gros, comme le dit la chanson de Pink Floyd, « Leave the kids alone ».« Leave the kids alone ». Laissez les enfants tranquilles. Ce dernier rappelle que la majorité des enfants qui font du sport ne veulent pas être olympiens et qu'il faut penser à eux. Dans le pays de l'explorateur Roald Amundsen, l'ensemble des clubs sportifs sont regroupés sous le parapluie de la Confédération norvégienne des sports et du Comité olympique et paralympique de Norvège. On est tous dans la même famille, de l'athlète olympique à mes neveux et nièces qui font de la natation localement. Bien sûr, il y a des bémols. Par exemple, une certaine forme d'ostracisation des jeunes qui ne font pas de sport. Alors, la société norvégienne doit se positionner par rapport à ça. Mais en même temps, je pense que les résultats sont quand même révélateurs. Rien ne presse. Au club professionnel de soccer de Tromsø, Jonas Johansson reconnaît qu'il est parfois difficile de se plier à la philosophie du pays. À Tromsø, le club est considéré comme un club vendeur, c'est-à-dire qu'il développe des joueurs, puis on les vend par la suite à des clubs soit norvégiens ou européens. Mais pour respecter la loi norvégienne, les pratiques de 7 à 12 ans sont ouvertes à tous, même aux moins talentueux. quand on lui fait remarquer que certains pourraient leur reprocher d'élever des athlètes incapables de faire face à l'adversité, M. Henriksson réplique « Si on a de la joie dans le sport étant jeune, on a plus de chances de rester actif toute sa vie. Et si on va vers la compétition un jour, on apprendra à la gérer à ce moment. Rien ne presse. »
Puis il y a juste un autre bémol là, que je voudrais mentionner, c'est que la Norvège, c'est un pays riche.
Oui,
c'est
aussi,
pas tous les
c'est
pays,
vrai.
C'est pas tous les pays qui peuvent quand même se permettre ce genre...
Les parents peuvent suivre davantage leurs enfants.
Tout à fait.
Parce qu'ils ont moins de problèmes financiers.
Mais c'est très intéressant. Puis ça remet beaucoup de choses en question de notre perspective ici. Mm-hmm. Bien, nous, on va aller faire une petite pause, une pausette de 2 minutes, et on revient et on continue ces discussions fort intéressantes avec Monique Kirvac et Yvan Deslauriers.